Bonjour et bienvenue à tous et à chacun. Je vous invite à lire avec moi deux passages dans le Nouveau Testament. Le premier, nous le trouvons dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 11. Souvenez-vous donc qu'autrefois, vous qui portiez le signe du paganisme dans votre chair, vous que traitez d'incirconcis ceux qui se prétendent les circoncis à la suite d'une opération pratiquée dans la chair, souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang de Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. Et c'est en lui que vous aussi vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Et nous avons notre deuxième lecture dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Nous lisons les premiers versets. Je veux en effet, dit l'apôtre, que vous sachiez quel rude combat je mène pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je veux qu'ainsi leur cœur soit encouragé et qu'étroitement unis dans l'amour, ils accèdent en toute sa richesse à la plénitude de l'intelligence, à la connaissance du mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. Sans doute, si je suis absent de corps, mais d'esprit, je suis avec vous, heureux de vous voir tenir votre poste et rester solide dans votre foi en Christ. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée et débordant de reconnaissance. Voilà le vœu de l'apôtre Paul pour les chrétiens de Colosse. Il aura le même vœu aussi pour ceux d'Éphèse. Et je relis ce texte parce que j'ai trouvé que ce vœu de l'apôtre Paul pour les Colossiens pouvait bien être aussi le vœu que nous formons pour nous autres, pour chacun de nos bien-aimés, pour ceux de la communauté et pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur au début de cette année. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée et débordant de reconnaissance. Voilà donc une expression imagée pour décrire une réalité spirituelle de la plus haute importance. Attitude, position, vœux pour le premier dimanche de la nouvelle année, reprenant donc ce vœu de l'apôtre Paul pour les chrétiens de Colosse. Enraciné et fondé. On trouve donc deux fois ces expressions dans la lettre aux Colossiens et dans la lettre aux Éphésiens, où nous lisons que le Père fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Pour le terme enraciné, nous avons un terme qui n'est pas très fréquent dans le Nouveau Testament. Il est employé surtout dans ces deux citations de la lettre aux Colossiens et de la lettre aux Éphésiens. Pour le deuxième, le terme fondé, il est employé d'une façon un peu plus fréquente. Le premier fait référence à cette image de l'agriculture, l'enracinement des plantes. Il est vrai que l'idée de l'enracinement, même si l'expression n'est pas exactement la même, est une idée assez abondante dans l'Écriture, et en particulier sur la parabole du semeur. Enraciné. Ensuite, fondé. C'est un terme qui fait référence à une autre réalité et qui émarge non plus à l'agriculture, mais à l'architecture. C'est la construction, c'est l'établissement d'un édifice sur des bases solides. Cette idée d'enracinement, de consolidation et de croissance est une idée très présente dans tous les termes du développement de l'Évangile et de l'enseignement transmis pour naître et grandir dans la vie nouvelle que le Seigneur nous propose. L'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres contiennent cette idée de position de fermeté, de solidité, de persévérance dans ce qui a été reçu, de force, de stabilité sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. C'est aussi, bien sûr, l'image de la maison bâtie sur le roc que nous avons à la fin du sermon sur la montagne. Jésus et les apôtres sont la base de l'Évangile et de l'enseignement que Jésus est venu nous apporter. Tenir fermement ce qui a été révélé. Nous trouvons d'ailleurs la même idée sous la plume de l'apôtre Pierre, puisque dans la deuxième lettre de Pierre, nous lisons « Voici ce que dit... c'est moi qui ai écrit, donc je me suis un peu avancé. Voici donc ce que dit notre texte. « Eh bien, mes amis, vous voilà prévenus. Tenez-vous sur vos gardes. Ne vous laissez pas entraîner par les impies qui s'égarent et ne vous laissez pas arracher à votre assurance, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. C'est donc sur cette idée-là que je voudrais que nous nous arrêtions quelques instants ce matin. L'idée de l'enracinement, de la croissance et de la fondation sur le Christ Jésus et dans l'amour. Cette fondation et cette croissance conjuguent trois images dans les expressions que nous venons d'évoquer. D'abord, celle de la plante, nous l'avons dit, parce que la plante s'enracine non seulement pour se stabiliser sur la terre à l'endroit où elle a été plantée, mais pour que circule la sève et se développe la vie et viennent à maturité les fruits. L'image de la plante. Ensuite, il y a aussi l'image du corps, de la croissance, du développement harmonieux. Et l'image du corps est une image qui se joue sur deux registres. Le registre individuel, c'est la croissance de chacun, et c'est aussi l'image communautaire, parce que nous avons aussi, vous le savez bien, le développement de l'image du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église. Et là, nous avons la croissance communautaire, l'harmonie, la solidarité, l'unité dans la diversité. Et puis, nous avons aussi cette image de l'édifice, avec la fondation. Comme nous l'avons dit, la maison bâtie sur le roc, en conclusion de l'enseignement de Jésus, qui est appelé le sermon sur la montagne. Nous avons en même temps, et nous l'avons trouvé dans les textes que nous avons lus, l'élément qui est en face de cette nécessité de fondation et de croissance, c'est l'idée de résister à ce qui peut empêcher la fondation d'être stable et la croissance de se développer. C'est le fait d'avoir autour de soi des éléments dangereux, des choses auxquelles il faut résister, auxquelles il faut faire face. Nous avons, entre autres, dans cette même lettre aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 20, cette image de l'édifice qui est bâti à la gloire de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur, un temple saint dans le Seigneur. L'image du corps. Reprenons dans toujours la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il y a un seul corps et un seul esprit. Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et cela, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour s'édifier lui-même dans l'amour. Dans ce texte, nous avons donc les deux éléments, celui de la croissance normale, nécessaire pour tout être qui vient à la vie et qui se développe en bonne santé. Et nous avons aussi, après l'idée du développement normal et harmonieux, le risque de voir cette unité du corps de Christ au sens communautaire être mise à mal par le fait que la croissance de chacun, l'affermissement de chacun dans l'état d'adulte n'est pas vraiment réalisé. Il est question d'être encore des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et là, nous voyons que l'un des dangers, nous y reviendrons à la fin de notre propos, l'un des dangers auxquels les apôtres ont à faire face et pour lequel ils adressent les exhortations à l'Église, c'est le risque des fausses doctrines, des idées qui s'introduisent ici ou là et qui risquent d'égarer certains, les uns ou les autres, ceux qui ne sont pas suffisamment affermis, suffisamment enracinés et fondés dans la foi. D'où la nécessité de cette exhortation. Je reprends une prière de Paul pour ses frères d'Éphèse. Je prie Dieu le Père, dit-il, pour qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que fortifiés dans l'homme intérieur, Dieu fasse habiter le Christ dans vos cœurs par la foi. Enracinés et fondés dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Enracinés et fondés dans le Christ, nous avons lu dans les Colossiens, enracinés et fondés dans l'amour, lisons-nous dans la lettre aux Éphésiens. Pour saisir cette richesse incommensurable de l'amour du Christ, dans toute sa largeur, sa profondeur, sa hauteur, être affermi, consolidé dans cet élément essentiel que le Seigneur nous a donné. Revenons donc sur l'importance des racines. La plante, par ses racines, assure sa fixation dans le sol, donc sa stabilité, et en même temps son alimentation. Elle absorbe l'eau, les sels minéraux et tout ce qui vient par là, et son développement et sa croissance. Dans la lettre aux Éphésiens, l'image est la même. Alors venons à ce que cette image nous dit sur la réalité de chacun de nous. Comment autrefois définissait-on une personne? Comment était-elle située? Quand on allait parler de quelqu'un, comment le désignait-on? Comment le décrivait-on? Eh bien, on lui donnait évidemment son nom, mais son nom était associé à celui de ses parents, de ses grands-parents et du lieu de sa naissance. Vous connaissez cette façon qu'a l'Écriture de parler de quelqu'un. Un tel, fils d'un tel, et venant de tel endroit, de Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Cette façon de désigner une personne, parlait évidemment de l'endroit où elle avait connu la vie, où elle était née, et où elle avait grandi, en recevant de ses parents d'abord, de toute sa famille et de son environnement, des éléments importants pour sa formation, pour sa construction en tant que personne. Le nom des parents, des grands-parents, et le lieu de la naissance. C'était en quelque sorte ces éléments qui constituaient les racines pour la personne. La personne venait de telle famille et de tel endroit, c'était ses racines. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, ces éléments se vivent souvent de façon divergente et contradictoire. D'un côté, les racines familiales. Vous connaissez le succès des recherches généalogiques. C'est quelque chose qui a tout un volant de développement partout où on cherche à connaître de plus en plus de choses sur ses ancêtres et de plus en plus loin. Succès des recherches généalogiques. Et en même temps, il y a aussi le développement d'une certaine contestation, et même pour certains, d'un certain rejet de ces éléments de construction personnelle qui nous viennent de nos racines, de nos parents et du lieu où on a habité. À l'extrême de ce courant contraire, il y a ce courant qui refuse le passé, l'histoire, les traditions et les conditionnements qu'on attribue à cette formation initiale. Nous avons là le fait d'une génération amnésique. Du passé, faisons table rase, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Ni passé, ni avenir. L'équivalent de ce que nous sommes en train d'évoquer dans la parabole du semeur, ça serait la semence qui tombe dans le sol pierreux. Il n'y a pas beaucoup de terre, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités de pousser des racines profondes, donc ni stabilité, ni solidité, ni résistance au vent, ni résistance aux attaques des nuisibles. En face de cela, il y a donc, dans nos textes de base, la transmission et la signification de cette transmission. Vous avez remarqué cet élément dans notre citation. « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée. » Telle que vous l'avez reçue. Importance de ce que nous avons reçu depuis notre plus tendre enfance pour nous faire ce que nous sommes. Importance du souviens-toi. Importance de tout le chemin parcouru. Nous savons que pour le peuple d'Israël, cet élément était tout à fait fondamental. Pour le peuple d'Israël, il a été fortement incité à s'enraciner, à se souvenir dans tout ce qu'il a vécu avec Dieu depuis les débuts de son histoire. Et vous savez comment commence l'histoire du peuple d'Israël, par le choix évidemment d'Abraham, etc. Et puis surtout, par la constitution du peuple en Égypte, et puis par la sortie d'Égypte, la grande délivrance de l'esclavage d'Égypte. Et tout le chemin parcouru pendant les 40 ans de sa marche dans le désert. La libération de l'esclavage, la loi du Sinaï. Et là, nous avons donc cet appel à se souvenir, Et nous avons une autre mention sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant ce matin. Souviens-toi de tout ce que l'Éternel a fait pour toi dans cette marche au désert. Souviens-toi du fait qu'il t'a donné l'eau à boire et même la viande quand tu l'as demandé. Mais surtout, il t'a donné la loi et il t'a conduit vers la terre promise. Mais nous, la mention que je voudrais souligner ici ce matin, c'est justement en relation avec cette idée de transmission. Lorsque ton fils te demandera, nous avons à plusieurs reprises cette mention, lorsque ton fils te demandera, que signifie ce que vous pratiquez ? C'est dans la première mention, dans le livre de l'Exode, c'est la première chose à laquelle il est fait référence. Quand ton fils te demandera, que signifie cette pratique ? Alors la pratique, en l'occurrence, la première mention, c'est pour les pains sans levain et pour le rachat des premiers-nés. C'était des choses qui entouraient la réalité du départ du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Lorsque ton fils te demandera « Que signifie ce que vous faites ?» Je note ici, d'abord, le fait de cette question. Dans l'éducation de l'enfant israélite, de l'enfant hébreu, il y a, à un moment donné, cette question qui vient. Et donc, c'est toute une éducation qui amène à ce que l'enfant pose cette question. Et la question, c'est une question essentielle. Que signifie ce que vous faites ? Quel est le sens de votre pratique ? Quel est le sens de votre conduite ? Que signifie ? L'enfant demande le sens. Et alors, tu lui répondras et tu lui raconteras. Nous étions esclaves en Égypte et l'Éternel nous a accordé la délivrance. Tu raconteras cela. On le voit donc à plusieurs reprises et on le voit aussi à un autre moment, bien plus tard, dans le livre du Deutéronome, c'est-à-dire 40 ans après, à la fin de la traversée du désert, c'est lorsque vos enfants vous demanderont. Et entre-temps, il y a eu, bien sûr, le Sinaï. Et lorsque vos enfants vous demanderont quel est le sens des préceptes, des lois et des ordonnances que le Seigneur vous a données. Permettez-moi de faire un peu preuve d'imagination. L'âge de ces enfants n'est pas donné, mais j'imagine que dans la première indication, c'était des enfants assez jeunes, et lorsqu'il est question de ces lois et de ces ordonnances, je pense que c'est des enfants qui ont quand même un âge un peu plus avancé et qu'ils se posent des questions du contenu de ce que les Israélites vivent, de ce qui fait leur colonne vertébrale dans la pensée et dans la pratique. Quel est le sens de ces lois et de ses ordonnances. Et puis, il y a une troisième mention dans le livre de Josué. Il est question du récit de la traversée du Jourdain, qui est un peu le pendant de la traversée de la mer Rouge. Et dans la traversée du Jourdain, le peuple doit élever comme monument mémoriel 12 pierres prises à l'intérieur du fleuve lorsque Dieu aura séparé les eaux pour permettre au peuple de traverser le Jourdain. Les 12 pierres du passage de Jourdain sont aussi objet de questionnement de la part des enfants. Que signifient ces 12 pierres ? Et à chaque fois, les parents qui reçoivent cette question répondent par le récit de ce que Dieu a fait, et par le sens de ses lois et de ses ordonnances que Dieu a données à son peuple, et qui doivent être la marque pour ce peuple d'un peuple sage et intelligent qui sait où est le bien et le mal et qui a reçu la vérité de la part de Dieu. Voilà donc l'importance de cette transmission du message. Et je reviens à notre texte. Soyez enracinés et fondés en Jésus-Christ, affermis dans la foi telle qu'on vous l'a enseigné. Jésus et les apôtres insistent beaucoup sur cette transmission du message dans sa manière, le fond et la forme. Les témoins qui ont donné, apporté cette réalité du message de la libération et de la vie en Dieu. L'importance donc des racines et surtout l'importance des racines pour le chrétien. Je voudrais, dans une dernière partie, évoquer le témoignage de l'apôtre Paul à l'égard de son disciple Timothée. Dans la deuxième lettre à Timothée, Paul, qui parle à son enfant bien-aimé, lui dit ceci: « Je suis plein de reconnaissance envers Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres. J'évoque le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et qui, j'en suis convaincu, réside aussi en toi. » Pour l'apôtre Paul, pour lui, et pour son disciple Timothée, l'importance de la transmission, l'importance de l'enseignement reçu, l'importance, ici, c'est très clairement évoqué pour le cas de Timothée, l'importance de ce que lui ont transmis sa grand-mère et sa mère, et qui font de lui un chrétien fondé dans la foi, enraciné dans la révélation de Dieu. C'est la position qui est la sienne. Il est dans la foi, dans le fondement, et il est dans la foi et l'amour, dans le dynamisme de la vie, qui sont dans le Christ Jésus. Et alors, l'apôtre, à propos de Timothée, continue son enseignement: « Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en toi. Toi donc, dit Paul à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Le solide fondement posé par Dieu demeure. » Toujours dans le texte que nous citons, nous avons la description d'abord de ce que sont les hommes dans des temps difficiles qui vont venir. Mais, dit l'apôtre Paul à Timothée, toi, tu as suivi avec empressement dans l'enseignement la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, les persécutions. Il y aura tout cela dans le parcours de ta vie. Et tu as vu comment moi, face à toutes ces circonstances, lui dit l'apôtre Paul, je me suis comporté. Tu as vu ma conduite, tu as vu ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Toi, demeure dans ce que tu as appris et accepté comme certain. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Et ailleurs, toujours dans la même lettre à Timothée, proclame la parole. Insiste à temps et à contre-temps, reprends, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner, car il viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront pas la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille leur démangeant, s'entoureront de quantité de maîtres, ils détourneront leurs oreilles de la vérité vers des fables, ils se retourneront. Mais toi, toujours Paul à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. Car il y a des gens qui sont toujours en train d'apprendre, mais qui ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Nous concluons, enracinés et fondés en Christ et affermis dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée. Poursuivez donc votre route, poursuivons donc ensemble notre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que nous l'avons reçu. Soyons enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'on nous l'a enseignée et débordants de reconnaissance. Nous vivons un temps particulièrement instable, imprévisible, marqué par beaucoup d'incertitudes. Peut-on encore, en ce début d'année, faire des projets ? Oui, bien sûr. En intégrant les inconnus, les nécessités de s'adapter au réel et les évolutions, nous ne savons pas grand-chose de ce qui est devant nous. Mais nous savons une chose, c'est que nous connaissons celui qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Laissons donc la parole de Dieu nous fournir les bases indispensables à une saine réflexion, ainsi que les avertissements sur les fausses sécurités qu'on peut nous proposer. En conclusion, nous résumons ces avertissements. Les fausses pensées du monde, les séductions de l'extérieur, et les fausses pensées de ceux qui prétendent savoir, notamment même dans le camp des croyants. Les séductions peuvent venir de l'intérieur. C'est ce que l'apôtre nous indique. Elles peuvent venir de l'extérieur, elles peuvent venir de l'intérieur. Alors, si nous relisions, si nous prenions un autre développement, nous y reviendrons probablement une prochaine fois, nous entendrions ces paroles d'avertissement « Que personne ne vous séduise par toutes sortes de pensées diverses et variées en prétendant vous apporter la vérité. » Pour croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous devons nous affermir dans notre foi et nous aurons avec elle, avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu, tous les éléments pour être consolidés, pour faire face au vent contraire, pour avoir une maison bâtie sur le roc. Le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pour marcher avec assurance, avancer dans la vie, il faut des racines qui puisent dans la bonne terre les éléments nécessaires à cette croissance et au renouvellement de la vie. Grandir en connaissance et en pleine intelligence de la pensée renouvelée, nourrie de la vérité révélée et animée par le Saint-Esprit. Je termine en lisant dans la lettre de Paul aux Éphésiens la fin du chapitre 3. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par sa puissance qui agite en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et concevons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.